Europe won at the American election.
Europe Soir, le 18-20.
Europe won live for the American elections.
Édition spéciale élection américaine.
Et Julien Bugier.
19h23, on est toujours ensemble effectivement pour notre édition spéciale US, car les choses bougent de minute en minute aux États-Unis. On est avec nos invités jusqu'à 20h en studio et en direct. Léa Pizarre, ancienne conseillère de Bill Clinton, avec nous en direct de New York. Rebonsoir Léa. Yannick Mirreur, qui est toujours avec nous, politologue et spécialiste des États-Unis. Jean-Éric Brana. Bonsoir Jean-Éric, spécialiste de la politique américaine et maître de conférences à l'Université de Paris 2. Nicolas Bouzou, économiste, qui est resté avec nous après sa carte blanche économique. Et nos correspondants sur place aux États-Unis, Xavier Yvon à New York et Mathieu Bock, notamment à Washington. Jean-Éric Brana, vous nous avez rejoint. J'en profite pour vous interroger sur ce qu'on se disait tout à l'heure en studio. Désormais, il y a peu de doutes sur l'issue du scrutin. Joe Biden deviendra vraisemblablement le 46e président des États-Unis. Et il a d'ailleurs prévu de s'adresser ce soir à la nation. Qu'est-ce qu'il peut dire? Est-ce qu'il peut dire « j'ai gagné, je suis le nouveau président »
Alors, si les votes de la Pennsylvanie ont été publiés, ce que tout le monde attend maintenant, oui, c'est ce qu'il dira, évidemment, puisqu'il aura 20 grands électeurs de plus dans son escarcelle, et donc il aura dépassé, il sera 273 officiellement gagné.
Il en faut 270 pour avoir la majorité.
Il en faut 270 pour être sûr que le collège électoral va vous déclarer président, à condition que personne ne fasse défection. Rappelons qu'il y en a quand même à chaque fois qui décident de prendre un chemin détourné. Mais je crois qu'au stade où il est, puisqu'il annonce déjà qu'il va parler, en réalité, il s'agit de calmer les esprits dans le pays. Il a endossé le costume présidentiel. Effectivement, comme vous le disiez, il a quasiment gagné. En tout cas, tout le monde le pense aujourd'hui. Il est quasiment président élect. Il faut donc qu'il rentre dans ce costume vraiment, et surtout que le pays ne s'enflamme pas.
Ouais.
Or, on a entendu des propos quand même assez détonnants, voire scandaleux, venir de l'équipe Trump et de son entourage, ses enfants et des conseillers très proches. Ça pourrait mettre le feu aux poudres. C'est pas la rhétorique elle-même, c'est la conséquence que ça pourrait avoir que Joe Biden essaie de contenir aujourd'hui.
C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on sent que l'équipe de Donald Trump est resserrée maintenant autour du clan, presque claquemurée dans la Maison Blanche, entre eux, ce qui peut être aussi d'une certaine manière inquiétant. Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place, mais parce que ils sont tous partisans d'aller jusqu'au bout. Et vous évoquiez l'un des fils de Donald Trump. Alors, il y a son fils cadet, Eric, qui a tweeté « Où sont les Républicains ? Ayez du cran pour soutenir mon père, lutter contre cette fraude. » Et puis son fils aîné, Donald Jr., qui est allé un peu plus loin. Écoutez-le.
Bon, les amis, c'est de la fraude. C'est littéralement de la fraude. Nous l'avons déjà vécu à Philadelphie dans le passé. Ils essaient de nous voler l'élection. Mon père est devant, avec au moins un demi-million de voix de plus. 86% des bulletins ont été dépouillés et il reste encore beaucoup de comtés républicains. Oui, énormément. Nous allons gagner la Pennsylvanie. Mais ils vont essayer de nous la voler, parce qu'ils savent que c'est leur seul moyen de gagner. Donc nous sommes ici, aujourd'hui, avec nos avocats, et nous allons ouvrir une procédure en Pennsylvanie. C'est une honte qu'on ait à faire ça. C'est la dernière chose que mon père veut faire, mais c'est de la corruption rampante. Et ça ne peut pas se passer comme ça. C'est injuste.
C'est hallucinant ce qu'on entend, Yannick Mirreur. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis. Jamais un président dans l'histoire, et par le biais de son fils, mais lui-même, Donald Trump l'avait dit auparavant, n'avait ainsi remis en doute la légitimité d'un scrutin. C'est quand même incroyable ce qui se passe.
On peut dire tel père, tel fils, en tous les cas. Non, c'est vrai que tout ça fait partie de la singularité de la présidence Trump, de sa personnalité. Je pense cependant qu'il est plus un symptôme qu'une cause. Enfin, ça n'est pas un accident, ça c'est certain, on a dit tout à l'heure d'ailleurs. De la même manière, rappelons-nous que George W. Bush, qu'on regretterait presque, et qu'on détestait pourtant, et pour de très bonnes raisons, pas seulement l'Irak, n'a pas été un accident de l'histoire. Et je pense qu'il faut revenir d'ailleurs à cette époque-là pour revoir ce qui se passe aujourd'hui et pour comprendre les excès, puisque le Parti républicain n'existe plus. En tout cas, on n'a plus d'âme aujourd'hui. Il a été pris en otage par M. Trump, mais parce qu'il a semé malheureusement tout ce qu'il fallait.
Mais il y aura un héritage quand même,
Dévoiement.
Le Trumpisme restera.
Je pense qu'il restera de la manière que le bushisme est resté. C'est-à-dire que il faut se passer peut-être à gauche. Alors, le Parti démocrate, dont on parlait tout à l'heure, le Parti démocrate a beaucoup quand même déçu, voire trahi, une bonne partie de l'électorat populaire aux États-Unis. D'une part, en étant peut-être trop élitiste, en prenant la cause systématiquement des minorités, de la tolérance, de la discrimination positive, qui globalement écartait, moquait, négligeait certainement la classe ouvrière, oui. Qui est l'épine dorsale de la population historique américaine. Et donc au bout d'un certain temps, cela a quand même nettement pesé. Et puis il y a eu la goutte d'eau, c'est-à-dire la troisième voie, la nouvelle gauche, une gauche un petit peu caviar, pour tout dire, incarnée par Bill Clinton et en particulier Hillary Clinton, avec le score que vous connaissez il y a 4 ans, qui était détestée. Les accords de libre-échange, l'approche de la mondialisation, plutôt que de corriger le tir et de prendre fait et cause pour la classe ouvrière et les classes moyennes aux États-Unis, le Parti démocrate s'est laissé aller à une forme d'élitisme et de dérégulation, notamment financière avec Bill Clinton, qu'il paie et qu'il continue de payer aujourd'hui.
Bien, vous restez avec nous, on continue d'en parler dans quelques secondes. À tout de suite, il est 19h29.
Europe 1. Europe 1, inside the American election. Édition spéciale présidentielle américaine. 19h... Julien Bugier.
19h30, effectivement, passé 2 minutes avec la suite de notre édition spéciale US, le club des idées à l'heure américaine et nos invités jusqu'à 20h avec cette élection américaine qui bouge vraiment minute par minute. Joe Biden a désormais la victoire à portée demain et il annonce qu'il s'adressera à la nation ce soir depuis les États-Unis. On va justement retrouver Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 à Washington. Mathieu, vous êtes au pied de la Maison Blanche. Quelle ambiance, quelle atmosphère autour de vous ?
Ah bah c'est clairement la fête ici. Hein. Alors vous savez, il y a des grilles anti-émeutes comme ça qui ont repoussé les manifestants à plusieurs centaines de mètres. On n'est pas devant les grilles historiques qu'on peut connaître qui sont vraiment collées à la Maison Blanche. Là on est un peu plus loin, mais c'est pas grave. Hein. Les manifestants ici, les militants font comme si on était sous les fenêtres de Donald Trump. A priori il est même là, donc il y en a plusieurs qui m'ont confié que c'était un plaisir supplémentaire de faire la fête sous ses fenêtres en le narguant. Il y a des manifestants qui ont sorti de la musique, vous l'entendez derrière moi, ça fait plusieurs heures que ça tourne. Pour tout vous dire, il y a un très beau soleil, il y a une très bonne ambiance, et une ambiance bon enfant. Les militants là, sont en train de terminer d'écrire leur dernière pancarte.
Oui.
Alors, il y a une qui est assez marrante parce que ça fait référence à l'émission de télé qu'animait Donald Trump, c'est You Fired. Donc, une immense pancarte qu'ils sont en train de terminer. Et il n'y a pas beaucoup de monde, il y a quelques dizaines de personnes. Il est 13h30, les gens travaillent ou viennent ici pendant la pause déjeuner rapidement. On espère qu'il y aura un peu plus de monde en fin d'après-midi. Mais les rues sont bloquées. Il y a une trentaine de policiers qui sont là pour assurer la sécurité, parce qu'avant les voitures continuaient, donc pour pas qu'il y ait d'accident, mais aussi pour éviter que des militants de Donald Trump viennent ici faire un peu de provocation, oui, et qu'il y ait des bagarres. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est très très bon enfant. C'est très sympa.
Très bien. Vous restez branchés. Si c'est très sympa, profitez-en. Alors Mathieu, vous restez branché avec nous en direct de Washington. Alors, il s'est passé quelque chose la nuit dernière à la Maison Blanche d'absolument incroyable. Donald Trump, pour la première fois depuis 3 jours, s'est exprimé face à la presse dans la salle de presse. Vous connaissez l'endroit, vous l'avez vu à la télévision notamment, la salle de presse de la Maison Blanche, avec à ses côtés sa porte-parole. Et il a dit ceci avant d'être coupé par les chaînes américaines qui l'ont coupé en direct. C'est absolument inédit.
There are tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever.
Well, we're interrupting this because what the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.
Voilà, vous avez entendu Donald Trump qui commençait à parler à la télévision, c'était retransmis en direct. Il y a eu des fraudes, dit-il, il reprenait le discours qu'il a utilisé maintenant depuis plusieurs jours et plusieurs mois. Et le présentateur, tous les présentateurs et présentatrices qui diffusaient en direct cette prise de parole ont interrompu la diffusion en indiquant que cette retransmission était suspendue car ce que disait Donald Trump était absolument faux et qu'il l'affirmait sans preuve. Ça, Jean-Éric Brana, c'est inédit dans l'histoire américaine aussi.
La coupure ?
Oui.
Oui, c'est inédit et c'est étonnant et moi ça m'a choqué personnellement. Je dois dire, je pense que c'est une erreur des journalistes.
Vous pensez qu'on aurait dû le laisser finir ?
Je crois qu'effectivement, il faut laisser la parole présidentielle aller au bout et que les Américains se rendent compte de tout ce qu'il est en train de dire et d'abord le respecter. Il y avait comme 70 millions de personnes qui venaient de voter pour lui. Imaginez la tête de ces 70 millions de personnes devant leur poste de télé qui entendent que leur parole, puisqu'ils viennent de voter pour lui, donc c'est leur parole, leur représentant, est coupée. Mais en même temps, c'est le représentant de tous les Américains. Donc sa parole, elle a un sens. Et pour moi, le travail du journaliste, comme nous les analystes en réalité, c'est après de commenter, de fast-checker et d'expliquer pourquoi cela pose un problème. C'est pas ce qui s'est passé, c'est une censure. La censure du président des États-Unis, pour moi, est un précédent dont j'avais jamais entendu parler. Et d'ailleurs, ça crée une jurisprudence. Ça veut dire que désormais, les journalistes en question vont devoir couper tous ceux qui racontent n'importe quoi dans le monde politique. Ils vont, à mon avis, couper assez souvent.
Compliqué, et voilà. ça risque d'arriver assez souvent.
Et ils ont donné, c'est mon dernier point, pardon, oui. Et ils ont donné l'eau au moulin de tous ces gens-là qui disent les médias corrompus font leur petite magouille. Enfin, j'ai pas compris.
Oui, ça renforce les supporters de Donald Trump dans leur conviction anti-système. Vous êtes d'accord, Léa Pizarre, vous êtes avec nous en direct de New York et vous êtes ancienne conseillère de Bill Clinton. C'est un moment inédit aussi qu'on a vécu la nuit dernière.
C'est un moment totalement inédit, mais ce que j'ai surtout remarqué, moi, c'est un Trump qui a l'air de perdre un peu de son énergie, de la niaque qu'on lui connaît. Il semblait déconfit, un peu désespéré. Moi, j'ai suivi ça sur une chaîne qui n'a pas interrompu, donc j'ai pu voir la totalité.
Fox News, notamment, n'a pas interrompu. Je ne sais pas si c'est celle-ci que vous avez suivie. Mais...
En l'occurrence, pour moi, c'était CNN.
CNN.
Effectivement, on assiste à une espèce de basculement. Et c'était peut-être presque son discours de concession à sa manière pour commencer à préparer sa sortie.
Pardon de vous poser cette question un peu baroque, c'est vrai, politique fiction, mais vous avez été conseillère de Bill Clinton, vous avez connu ces ambiances de la Maison Blanche, du bureau ovale. Si vous étiez ce soir conseillère de Donald Trump, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Je lui dirais de vraiment soigner sa sortie, d'essayer d'avoir un peu d'élégance et d'être à la hauteur pour une fois de la présidence, de faire une sortie digne, un transfert de pouvoir digne afin de pouvoir laisser une marque à peu près décente dans l'histoire. C'est mal parti, mais s'il continue à s'agiter comme ça, les livres d'histoire ne retiendront que cela. Vous savez, mon fils a 5 ans. Mmh. Alors, il est fasciné, il comprend 270 votes. Et je lui dis, fais bien attention parce que toute ta vie, on va te parler et tu parleras de cette période. C'est un tournant absolument historique. Donc, il a encore une chance de conserver un tout petit bout de place dans l'histoire.
Nicolas
Bouzou.
C'est
ce que je lui dirais, en tout cas.
Oui, merci.
Moi, ce que j'observe quand même dans la société américaine, c'est finalement qu'elle est beaucoup plus calme que ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est-à-dire qu'on avait vu les achats d'armes qui avaient augmenté ces derniers jours. Certains prédisaient des émeutes. Pour l'instant, il semblerait que les choses se passent assez calmement. Il y a quand même beaucoup de responsables politiques, de congressmen républicains qui ont désavoué Trump et qui expliquent que non, il faut que la démocratie se fasse. Et quand on regarde un peu les télévisions, qu'on lit la presse, tous les juristes américains expliquent aussi que non, voilà, il n'y a pas de preuve de fraude en tout cas. Et donc, il me semble qu'il y a quand même une espèce de consensus populaire autour de cette idée selon laquelle Joe Biden a gagné. Je dis ça parce que
c'est vrai qu'avec l'Amérique, on aime bien agiter le chiffon rouge.
Oui, exactement ce que je voulais dire. On a beaucoup critiqué le système institutionnel américain ces derniers jours. Bon, il se trouve qu'on est dans une situation très polarisée. Et finalement, les choses ne se passent pas si mal que ça.
Alors, tous les regards sont ce soir évidemment braqués vers la Pennsylvanie. C'est la Pennsylvanie qui va déterminer dans quelques instants si Joe Biden est bien le nouveau président des États-Unis. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, spécial présidentielle américaine. Et Julien Bugier.
19h41, effectivement, suite de notre édition spéciale US avec nos invités jusqu'à 20h. Et les choses évoluent effectivement aux États-Unis. Les yeux, tous les regards sont désormais les yeux braqués vers la Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs qui sera déterminant véritablement pour cette élection qui aujourd'hui se joue vraiment en faveur de Joe Biden. 253 grands électeurs pour lui contre 213 pour Donald Trump. Xavier Yvon, toujours avec nous en direct de New York. Vous avez de nouveaux éléments, Xavier.
Oui, il y a un nouveau communiqué qui vient d'être envoyé par la campagne de Donald Trump, qui est signé par le président Donald Trump, qui répète qu'il veut qu'il y ait une transparence totale dans le processus électoral, qu'il ne faut pas compter les bulletins illégaux, mais seulement les légaux. On sait qu'il entend par illégaux les bulletins par correspondance, qui ne lui sont pas favorables. Et surtout, c'est la dernière phrase qui est intéressante et qui est importante. Il dit « Je n'abandonnerai jamais de me battre pour vous et pour notre nation ». Ça veut dire que Donald Trump, enfermé dans la Maison Blanche, est déterminé à continuer le processus judiciaire, à contester l'élection de Joe Biden.
Bien, merci Xavier pour cette dernière info. Ça peut durer longtemps, cette bataille de recours et de communiqués, Yannick Mireur.
Je ne pense pas que ça puisse durer au-delà des 3 mois. Il y a une date aussi, entre-temps.
Ça, c'est sûr que le 20 janvier, il y aura un nouveau président ou il y aura le président actuel en poste.
Exactement. Il y a juste une date entre les deux qui est importante. Ce n'est pas la seule, mais notamment celle du 14 décembre où les grands électeurs doivent se prononcer. Je pense que les résultats qui arrivent et la tendance qui s'impose feront l'essentiel du travail. Tout dépend évidemment de l'attitude de M. Trump elle-même. On a beaucoup spéculé sur un déchaînement, etc. Je n'en suis pas du tout convaincu. Donc il se pourrait en fait que finalement, malgré la confusion de l'interrègne, il n'y ait aucun chaos et que ceci se passe finalement relativement bien compte tenu de là d'où l'on vient.
Léa Pizard, toujours avec nous en direct de New York, ancienne conseillère de Bill Clinton quand il était président à la Maison Blanche. Est-ce qu'il peut s'aborder la transition entre la passation de pouvoir et le vote d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 20 janvier, Donald Trump? Est-ce qu'il peut s'aborder la transition et savonner la planche d'une certaine manière à Joe Biden? Il paraît qu'il y a une inquiétude particulière chez les dirigeants européens pour les échanges qui vont être les leurs pendant les 3 prochains mois.
Absolument. Il ne serait pas sage de sa part de le faire, mais il est fort probable qu'il essaye de faire absolument tout justement pour savonner la planche. D'une part, en rendant la période de transition qui nécessite vraiment des échanges entre l'équipe sortante et la nouvelle équipe. Et Barack Obama avait vraiment essayé de faire en sorte que ça se passe bien. George Bush père avait été merveilleux avec Bill Clinton quand il est arrivé à la Maison Blanche. C'est ce qu'on fait quand on est un chef d'État civilisé. Donc, l'équipe qui prépare la transition de Joe Biden depuis un moment, puisque ces choses se préparent avant l'élection, a cette inquiétude. Et évidemment, on ne sait pas ce qu'il pourra faire du point de vue politique et international, entre maintenant et le 20 janvier. Alors, il est possible qu'il se déploie dans tous les sens.
Alors justement, Léa Pizard, vous évoquez la transition en 92 entre George Bush père, qui reconnaît sa défaite face à Bill Clinton, le président que vous avez accompagné. Écoutez, c'est donné ça.
Le peuple s'est prononcé et nous respectons la grandeur du système démocratique. J'ai appelé le gouverneur Clinton à Little Rock et je l'ai félicité. Il a mené une campagne solide. Je lui souhaite le meilleur à la Maison Blanche. Et je veux que le pays sache que toute notre administration travaillera étroitement avec son équipe pour assurer une période de transition sereine.
Voilà, une chose est sûre, c'était en 92, Nicolas Bouzou, il y a peu de chances que ça se passe pareil cette fois-ci avec Donald Trump.
Avec Donald Trump, oui, évidemment, mais il faut bien voir 2 points. La première chose, c'est que le président aux États-Unis, il a dans ses mains un pouvoir qui est en réalité beaucoup moins fort que, par exemple, le président français. La justice est très présente aux États-Unis, le Congrès est très présent, donc, et l'État, on l'oublie parce qu'on a le sentiment d'un pays libéral, mais on a une administration qui est aussi extrêmement puissante. La deuxième chose qu'il faut aussi avoir en tête, me semble-t-il, c'est que Joe Biden est quelqu'un qui est incroyablement expérimenté. C'est d'ailleurs sa force et sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est son âge. Sa force, c'est qu'il a fait ça au fond toute sa vie. Il a été
sénateur en 72.
Quasiment toute sa vie. Ouais. Il a été 2 fois vice-président, si vous voulez. Donc, on a en face de nous quelqu'un qui est d'une expérience incroyable et donc qui, avec son équipe, est quand même en capacité de gérer des situations extrêmement complexes.
Yannick Mireur.
Et puis il a été aussi le sortant lorsqu'il a passé la main à Mike Pence,
en plus,
il y a 4 ans, ce qui n'est pas si vieux. Donc il connaît ça naturellement. Mais je pense qu'on peut beaucoup spéculer, évidemment, ça dépendra. Trump a la caractéristique d'être erratique et imprévisible, et dans l'excès. Donc je ne suis pas sûr que ce soit absolument garanti. Et de la même manière, je ne suis pas certain que les Américains finalement tirent les conclusions de ce scrutin, c'est-à-dire des choses qui sont quand même curieuses, à savoir l'élection par le collège électoral. Certains d'ailleurs plaident pour une réforme des institutions américaines. Cette période très longue de 3 mois qui ne sert pas à grand-chose sinon à créer de la confusion. Et ce sera ça qui sera intéressant de voir, si par la suite il peut y avoir une espèce de consensus droite-gauche, ou républicain-démocrate, comme vous voudrez, si Joe Biden, c'est ça sa grande mission.
Oui.
S'il va pouvoir, comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, s'il va pouvoir le reconstruire pour que les États-Unis tâchent de penser leur plaie et de préparer l'avenir, y compris par exemple au plan institutionnel, comme on vient de le voir avec cette élection très surprenante.
Et vous restez avec nous, 19h47, on se retrouve dans quelques secondes pour continuer à parler de cette élection américaine qui nous tient en haleine. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, spécial présidentielle américaine et Julien Bugier.
19h50, suite de notre édition spéciale jusqu'à 20h et tout au long de la soirée, évidemment, sur Europe 1, on va vous faire suivre ces élections américaines qui semblent en faveur, décidément, de Joe Biden. Ça se confirme. Il prendra d'ailleurs la parole pour s'exprimer à la nation. C'est ce qu'on apprend de la part de son entourage. Alors, on évoquait tout à l'heure la colère qui a grondé dans le pays et cette fracture entre les deux Amériques. C'est vrai que même si Joe Biden est confirmé à la présidence des États-Unis et que Donald Trump reconnaît in fine sa défaite, il restera une fracture. Illustration avec Steve, électeur républicain en Pennsylvanie. Il est au micro de l'un de nos correspondants, Théo Manval. On l'écoute.
Je ne sais pas ce qui va se passer, mais s'il perd cette élection, le combat ne sera pas fini. Ce sera juste le début. On ne va pas faire des émeutes, on n'est pas comme les groupes d'ultra-gauche. On va protester. Mais il n'y aura pas d'émeutes, il n'y aura pas de violence. On devra juste travailler plus dur pour les prochaines élections. Et vous verrez, dans deux ans, pour les élections de mi-mandat, les choses auront changé.
Et vous me disiez quelque chose, Yannick Mireur, pendant la pause, politologue spécialiste des États-Unis. Vous me disiez, ce qui est bien avec Joe Biden, c'est qu'il peut ressouder cette Amérique, car il est à la fois démocrate, mais en même temps un peu républicain aussi.
Vous nous avez fait écouter tout à l'heure le président Bush père et son discours d'acceptation de la défaite en 1992 face à Bill Clinton. Bon, c'est un gentleman, là on est dans une autre époque, mais quelle est la différence entre Joe Biden et M. Bush père? Pas confondre avec le fils, hein. Le père, très peu. On se retrouve là dans le creuset d'un consensus très respectueux des institutions, d'une forme de décence dans l'exercice du combat politique. Par ailleurs, il y a l'élément générationnel, bien sûr, aussi, et donc l'éducation, les gens qui ont vécu la guerre, etc., le Vietnam et tout ça. Voilà. Donc je pense que c'est ça, Joe Biden, et que compte tenu du Parti républicain aujourd'hui, qui est un ovni, il aurait été un assez bon candidat républicain aussi, et donc
oui,
je pense qu'il gouvernera au centre.
À ceci près que, sur le papier, Nicolas Bouzou, on verra s'il gouverne au centre et si d'ailleurs il doit composer.
Il sera probablement obligé parce que le Sénat sera républicain.
C'est ce que j'allais dire, avec des sénateurs républicains.
Donc ça va tempérer les choses.
Il devra trouver un consensus, mais sur le papier, son programme, car lui il en a un, à la différence de Donald Trump qui n'avait pas de programme et qui disait simplement je vais continuer ce que j'ai fait, ça va être formidable. Joe Biden, lui, il a un programme économique fort, et là on parle des États-Unis à proprement parler, hausse des taxes sur les plus riches, des impôts sur les plus riches, et des impôts aussi sur les sociétés, avec l'idée de renforcer le fameux Obamacare mis en place par le président Obama.
Oui, c'est ça. Alors, il y a trois grands volets dans le programme économique de Joe Biden. Il y a en effet des augmentations d'impôts sur les plus riches. Il a beaucoup répété pendant sa campagne que les gens qui gagnent moins de 400 000 dollars par an ne subiraient aucune augmentation d'impôts. Donc, il met le seuil assez haut. Il y a des augmentations de taxes sur les entreprises.
Et d'ailleurs, pardon, Nicolas, je vous coupe, mais j'ai découvert à cette occasion qu'on dit toujours que les Français paient beaucoup d'impôts, ce qui est au demeurant factuellement vrai par rapport à nos voisins européens, mais aux États-Unis, ils en payent également beaucoup.
Vous avez tout à fait
raison.
On est
sur des niveaux de 35% de taux marginal.
Alors, vous avez mille fois raison de le rappeler, et puis il faut surtout ne pas oublier la fiscalité des États. En Californie, par exemple, vous payez énormément d'impôts. Ce que vous dites est tout à fait juste. Donc, il y a des augmentations d'impôts donc pour les personnes les plus fortunées, je l'ai dit, augmentation d'impôts sur les entreprises avec, et ça c'est très important parce que c'est quelque chose que Trump a fait aussi, une pénalisation des entreprises qui vendent aux États-Unis mais qui délocalisent leur production. Donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a quand même maintenant un peu cette méfiance de la mondialisation, y compris chez les démocrates. Et puis troisième sujet, c'est une politique de relance budgétaire qui passe par ce que les Américains appellent le Green Deal. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on fait en France dans le plan de relance, c'est-à-dire essayer de faire de la relance par des investissements verts. Alors en France, on le fait beaucoup par la rénovation des bâtiments. Aux États-Unis, il s'agit plutôt de faire des infrastructures, de développer les énergies renouvelables. Mais donc, on a en effet quelque chose qui est plutôt de centre-gauche, mais avec la cohabitation, en réalité, Joe Biden, sa politique économique, elle sera sûrement au centre. Et je pense qu'à titre personnel, c'est quelque chose, en réalité, qui lui va plutôt bien, puisque économiquement, il se situe plutôt aujourd'hui en réalité, sur la droite du Parti démocrate.
C'est un peu comme en France, Yannick Mireur. Aux États-Unis, quand on est élu, on ne se souvient plus de ses promesses. Alors, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais est-ce que c'est un peu comme en France ou est-ce que les politiques, plutôt, tiennent leurs engagements?
Non, mais simplement, disons que ça, c'est variable. Il y a quand même des gens qui sont assez sérieux. C'est vrai que l'historique de M. Biden, qui est un homme modéré, ne montre pas quand même des réalisations ou d'une incarnation particulièrement forte. En tous les cas, donc son tour arrive maintenant, il ne faudra pas qu'il le rate.
Ouais, de ce point de vue-là, d'ailleurs, Donald Trump a plutôt tenu ses promesses. Hein. Il a fait ce qu'il a dit.
Trump, lui, a tenu ses promesses, il a fait ce qu'il a dit. D'autres l'ont fait avant lui aussi. Je pense que Obama n'était pas si mal là-dessus, mais face à pas très efficace du point de vue politique, du point de vue de la machine politique, face à un Sénat obstructionniste, peut-être un, Biden sera plus adroit là-dedans,
oui.
Parce qu'effectivement, il y a passé sa vie. Et deuxièmement, sortant de l'épisode Trump, peut-être que le parti républicain s'amendera un petit peu lui-même face à quelqu'un qui l'apprécie.
Réaction pour conclure peut-être Léa Pizarre en quelques mots, ancienne conseillère de Bill Clinton.
Oui, chers messieurs, je vous trouve quand même un peu négatif, alors que pour moi, nous sommes devant nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Ça ne va pas être facile. Il faut sortir de la crise du Covid, il faut sortir de la crise économique. L'équipe Biden aura du pain sur la planche, mais je voudrais juste vous parler de l'avenir des relations transatlantiques qui me tiennent vraiment à cœur. Et elles tiennent à cœur à Joe Biden. Sa priorité en politique étrangère sera en premier lieu de restaurer les alliances, de restaurer le multilatéralisme. Il comprend que les États-Unis ont besoin des alliances. Il aime l'Europe. Si vous regardez, il s'est historiquement exprimé, notamment en tant que vice-président à la conférence sur la sécurité de Munich tous les ans. Et on a là un discours pro-européen et un discours international. Donc je voudrais vous rassurer là-dessus et vous dire que, notamment en politique étrangère, où il aura une grande marge de manœuvre, les relations seront au beau fixe.
Bien, merci infiniment Léa Pizarre d'avoir été ce soir en direct avec nous depuis New York. Merci Yannick Mireur, merci infiniment Nicolas Bouzou de m'avoir accompagné dans le studio d'Europe Soir. 19h57, on marque une pause dans un instant, le rappel des titres, et puis Émilie Mazoyer avec la musique qui reçoit ce soir Marina Kay. Bonne émission Émilie et très bon week-end à vous. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi à partir de 18h et d'ici là, on écoute Le Monde Changé évidemment sur Europe 1.
Europe 1. Europe 1. The American Choice.